physique par le Père Marie-Dominique Philippe à Rimont le 5 mars 2002.
Je m'excuse, je suis passé tout de suite au corps et j'ai oublié de vous parler de l'art. Parmi les diverses dimensions de la personne, je reprends l'autonomie, l'intelligence, la volonté, la prudence, l'art. Alors, je réponds aujourd'hui, je reprends l'art et puis le corps qui est la sixième dimension. Et la septième dimension, c'est le point de vue religieux. Alors qu'on peut traiter en premier ou en dernier. Vous voyez, il y a sept dimensions de la personne humaine. Et six, c'est pas pour rattraper six, c'est la dimension où on supprime l'adoration. Bon, c'est la dimension de qu'on veut aujourd'hui, spécialement certains, veulent la dimension religieuse ne fait pas partie de la dimension humaine. C'est la septième. Il y en a autrement six. Chiffre de la bête. Et c'est très cru, je reste. Alors, si vous voulez, je réponds aux questions, et puis on va s'embarquer dans le point de vue de l'art. L'art, c'est-à-dire du facere. Parce que c'est le facere, en réalité. Le philosophe dit-il que l'âme séparée du corps n'est plus une personne. Alors ça, je laisse tomber, puisque nous reviendrons là-dessus. Et ces questions sont toutes du côté de l'art. Vous avez dit, dans l'un de vos cours, le 2 octobre, que l'art et l'artiste nous aide à montrer d'une manière très élégante ce qu'est la personne humaine. L'art fait partie essentielle de la personne humaine. L'art, c'est-à-dire le facere. Je prends l'art dans cette dimension fondamentale qui est le facere et qui s'épanouit en l'art proprement dite. Alors, l'art fait partie essentielle de la personne humaine parce que la personne humaine a un corps. Oui, c'est pour ça que je peux très bien mettre le corps avant ou le corps après. Oui, puisque l'ange n'a pas de corps et n'a pas de facere. Demandez pas conseil aux anges pour le facere. Hein? Je dis ça, je ne dis pas qu'ils le font, mais les anges nous regardent dans le facere, comme on regarde des gosses faire des petites constructions au bord de la mer avec le sable. Ils construisent des châteaux, des tas de choses comme ça. On regarde ça amoureusement, merveilleusement. L'ange, quand il voit arriver le TGV, je me pose toujours la question. Pendant le gardien, quand il voit arriver le TGV, ils doivent dire, qu'ils sont terribles, ces hommes, ils s'amusent, ils oublient Dieu, ils s'amusent. c'est soucieux. C'est des imgettes souvent pour les anges. Prenez la distance, Paris, Marseille, un coup d'aigle, ça y est. On y est. Alors, les hommes, il leur faut autre chose. Quand les hommes s'amusent en avion, c'est la même chose. Quand ils construisent des choses les plus extraordinaires, parce que, selon la Bible, la construction architecturale, l'architecture est l'art des arts. Hein. Les constructions architecturales monumentales, c'est un défi. C'est toujours un défi. Et l'orgueil de l'homme se met à répondre à ce défi. Jamais oublier ça, parce que selon l'Écriture, c'est bien ce qui nous est montré. L'homme a commencé à construire et Dieu s'est dit, à partir de ce moment-là, il va être rival. Vous savez le fameux passage dans l'Écriture, qui est très extraordinaire et qui est très actuel. Beaucoup de choses peuvent se comprendre que quand on lit ça et qu'on se disait, c'est vrai. Alors, vous voyez, l'art est la possibilité pour l'homme d'être comme un dieu, puisqu'il fait quelque chose. Alors, mettez en parallèle création et fatuerie. Parce que par l'art, l'homme peut devenir rival de Dieu. Il devient rival de Dieu parce qu'il fait quelque chose de nouveau. Il réalise quelque chose. La différence, c'est qu'il a besoin de la matière, tandis que Dieu n'a pas besoin de la matière. Il fait. Dans le fatuéré, n'importe quel fatuéré, la cuisine, il a besoin d'avoir la matière à cuire. L'art est lié au feu. L'homme a volé le feu au Dieu selon cette tradition grecque. Il a volé le feu aux dieux pour pouvoir faire réaliser un art plus parfait. Et c'est vrai, s'il n'avait pas le feu, il n'irait pas loin. Et au fond, dans l'art, il y a la domination sur le feu. Et la domination sur le feu fait que l'homme peut se servir non seulement de la matière, mais il se sert de l'eau, il se sert de l'air, il se sert quand il gonfle des pneus, il se sert de l'air. On n'a pas de pneus s'il n'y avait pas d'air. Il se sert de l'air et il se sert du feu. C'était la dernière capture de l'homme, être dominer le feu. Dieu domine le feu, le soleil. Et nous, on fait une petite rivalité, un feu de camp. Et il y a une gloire du feu de camp. Et je vois chaque année la bénédiction du feu nouveau, c'est très bien fait. C'est très fait, je fais canard et ça. On aime ça. c'est inscrit en nous. Il y a toujours une histoire du fameux scout Hilary Gaudy, le grand scout devant l'Éternel, qui m'a raconté une histoire, Hilary Gaudy. On était très copains, parce que je l'aimais beaucoup. Et il m'a raconté une histoire, c'est toute une histoire de scout. Et il y avait chez les Dominicains entré un russe émigré qui avait sa logique à lui, très spéciale. Et lui aussi, je l'aimais beaucoup. C'était un repos, se reposer, quelque chose de notre logique. Descartes, il n'y a rien de plus opposé à Descartes qu'un russe. Quelque chose de très. Ça fait du reste très, très bien comprendre, au point de vue religieux, comment il y a deux aspects tellement opposés, tellement différents au point de vue religieux, qu'ils ont pris de l'air. Hein. Alors, Guy Hilary Gaudy me racontait. Il était devant les routiers, encore uniquement les routiers, il était en retard. Alors il avait confié à chacun sa spécialité. Il avait confié à mon brave novice, qui était novice ce soir-là, le feu. Parce que chaque fois, c'était ce russe, il dominait par le feu. Il faisait toujours quelque chose, etc. Alors, et toi, le feu, quelque chose de bien. Puis, il distribue les rôles, il revient au feu une demi-heure après. Qu'est-ce qu'il voit? Mon novice avec deux silex. Il me dit, mais quoi? Qu'est-ce que tu fais? Mais tu m'as dit d'avoir un feu radical. Il faut le prendre à la source. Donc, je le prends avec deux silex pour avoir le feu à sa racine. Il m'a dit, voilà, ça c'est le russe. Il y a quelque chose de très grand, la domination du feu. Il ne faut pas oublier que c'était en licence pour Lénine. Il a fait comme licence ce point de vue-là. La domination sur le feu. On vole le feu aux dieux. Et volant le feu aux dieux, on devient maître. Et on domine. Quelque chose qui est très profond et qui va très loin. De voir que ça a été le point de départ de Lénine vers ça. Lénine. Le feu permet l'art. Toujours une dépendance vis-à-vis du feu, le fatueré. Tout fatueré, alors prenez le fatueré de la cuisine. Évidemment, la cuisine n'existe que s'il y a du feu. Autrement, c'est la cueillette. La cueillette est première, mais elle ne suffit pas à l'homme. L'homme a besoin de mettre sa marque pour faire quelque chose de plus. Faire le pain. Faire le vin. se sert du soleil. Le raisin. Et c'est le raisin qui prend le plus le soleil. Ça, c'est sûr. Donc, c'est encore le feu. Donc, il y a une espèce de lien entre le feu et l'homme. L'enfant, le gosse, s'amuse toujours avec du feu. Je me souviens, c'est encore un souvenir qui est dans ma mémoire inscrit. C'était au début de la guerre. On allait à Paris en bicyclette. Ça faisait quand même une bonne petite course. Et puis on roulait en bicyclette dans Paris toute la journée. C'était le moyen de connaître Paris. Et il y avait deux routes. On passait la Seine, puis on avait l'autre route, la plus directe. Et il y avait la neige. Et je vois en bicyclette, à distance de 200 mètres, un feu. Regarde bien, c'était deux gosses qui s'amusaient avec du feu dans la neige. La route était neigeuse. Et ces deux gosses avaient pris feu dans leur costume, dans leur... Ça flambait. Alors vous comprenez que je filais à toute vitesse, le plus vite possible pour les rejoindre. Près d'eux, et les rouler dans la neige pour arrêter le feu autant que vous pouvez. Parce que je suis arrivé quand ils étaient chauds. C'était le feu, les brûlait à ce moment-là. Il n'y avait personne. Parce que forcément, la route neigeuse, ça faisait loin. Puis heureusement, il passait une auto. Je l'arrêtais, j'aurais supplié de les emmener tout de suite à l'hôpital. Et je me souviens toujours c'est ce feu de ces gosses, ces deux gosses qui brûlaient, s'amusaient avec le feu. C'est très séduisant, le feu pour les gosses. Et on leur demande, et puis je me souviens de ce gars qui disait je fais tic et puis ça brûle, et l'allumette on fait tic et puis ça brûle, et c'est quelque chose de merveilleux. Nous on est habitués, alors on voit plus ce qu'est de merveilleux dans le feu. C'est quand même pour Aristote l'élément supérieur qui commande tous les éléments. L'eau, la terre, l'air. Et tous les éléments sont dominés par le feu. Et le feu est présent dans tout composé. C'est extraordinaire. Ça, je crois que les quatre éléments d'Aristote, j'avais fait à Fribourg, un séminaire où j'avais pris un spécialiste de chimie, de physique, c'était fait avec des professeurs. On pouvait le faire à Fribourg parce qu'on avait, là tout le... Et ça les intéressait. Et on s'est demandé, alors, point de vue critique, si la science moderne, avec la chimie, la physique, les éléments d'Aristote, les quatre éléments d'Aristote, étaient encore, on pouvait encore les soutenir philosophiquement. Je voulais en avoir le cœur net. Parce que toute la philosophie d'Aristote, la philosophie de la nature, repose sur les quatre éléments. C'est donc très important de savoir si la science moderne supprime ces quatre éléments. En chimie, J'avais des quantités d'éléments, plus de 4 seulement. Il y en a un, j'ai fait ça très sérieusement, c'était très intéressant. Parce qu'on voyait bien la mentalité du savant. Et on a vu que justement, les éléments d'Aristote, si on les étudie bien, reposent sur notre expérience immédiate. Et tous les éléments physiques, chimiques, reposent sur l'expérimentation. Et alors, on voit la distinction des sensibles communs et des sensibles propres. Les éléments d'Aristote reposent sur les sensibles propres. Les sensibles propres, c'est nos sensations directes. Les sensibles communs, c'est ce qui est mesurable. Alors, vous voyez, ces 4 éléments d'Aristote restent philosophiquement quelque chose qu'on doit découvrir. La science moderne se situe à un autre niveau, pas au même niveau. Les sensibles propres, c'est capital. Et toute la philosophie de la nature d'Aristote repose sur les sensibles propres. Et c'est très intéressant. Donc l'art se sert du feu pour fabriquer et arriver à des choses les plus extraordinaires, puisqu'on peut arriver par le feu, une imitation très lointaine du soleil, très, très lointaine, c'est évident, mais quand même, c'est le soleil dans notre monde physique. Participation du soleil dans notre monde physique et possibilité de capter. L'homme ne peut pas capter la force du soleil. Il serait complètement fichu. Et les participations, le feu, tout ce que notre monde physique peut acquérir par le soleil. Mais le soleil reste. Et c'est du reste pour ça que dans la mentalité ancienne des mythes, le soleil, c'est Dieu. Et je me souviens, pas si longtemps, c'était les premières visites à Saint-Joudard. À Saint-Joudard, il y a, à l'entrée, il y a possibilité de regarder le lever du soleil sur cette petite qui est à l'entrée. Alors, je faisais visiter ce couvent par un des adorateurs du soleil. Il dit, oh, c'est merveilleux ça. Vous pourrez apprendre aux novices à adorer le soleil le matin. Le soleil qui se lève. Plus extraordinaire, c'est le soleil. Alors il m'a fait toute cette petite théorie sur le soleil, le lever du soleil. Et c'est vrai que d'une certaine manière, avec la terrasse, le lever du soleil, ça a joué énormément dans les mythes, le soleil, jusque dans la liturgie chrétienne. Sol justitié, soleil de justice. C'est Dieu, soleil, si on se sert du soleil comme image, le soleil de justice. La justice illuminée par le soleil qui est l'ardeur de l'amour, le feu et la lumière et l'amour passionnel, c'est du feu et c'est lumineux. comprend comment la source de toute lumière et de toute chaleur, le soleil, soit considérée comme un. Or, par l'art, l'homme capte la lumière et le feu. Je crois que c'est très important de comprendre cela, parce que à la racine de tout, l'homme maître du feu peut se considérer comme Dieu. Comme Dieu. Similitude. L'analogie de similitude repose là-dessus. Hein. Faut pas l'oublier, faut pas perdre le réalisme. L'analogie de similitude, c'est le soleil qui est source première de la lumière et du feu. Et la lumière et le feu est l'élément suprême, et la lumière, c'est la quintessence. C'est la lumière qui fait l'unité du monde physique. La lumière, c'est le passage du monde physique au monde spirituel. Et avec la lumière, alors ce qui est très important, c'est d'étudier le lien entre lumière et feu. Parce que ce sont les deux sommets du monde physique, au point de vue philosophique. Et ce sont les deux que l'homme essaie de capter. La lumière et le soleil. Et comme il peut capter la lumière seule comme énergie et comme énergie, lumière et chaleur, il peut croire qu'il devient le maître du monde, qu'il domine l'univers physique, que cet univers physique qui lui est donné, il le domine. L'art et fille, selon la réalité, l'art est fille de Dieu. Ça vient de Dieu. Notre capacité de fatchéré, mais venant de Dieu, dépendant de Dieu, on peut se servir de l'art pour arriver à une domination de l'univers par le point de vue du feu et de la lumière et croire qu'on devient maître du monde. Je crois qu'il faut bien voir cette tentation très subtile mais réelle, elle a existé et elle continue d'exister. C'est le fatuéré. Où on est séduit de la lumière et de la chaleur. Les deux grandes séductions qui peuvent aller très loin vers le fatuéré humain. Autrement dit, dans le fatuéré humain, il y a un fatuéré qui est mis pour montrer à Dieu qu'on a reçu de lui ce pouvoir merveilleux de fabriquer quelque chose, de faire quelque chose. Et donc, par là, se soumettre à lui, et c'est toute la liturgie. La liturgie, c'est reconnaître que le fatuéré vient de Dieu, petite fille de Dieu, et en le poussant jusqu'au bout, de le dresser contre Dieu, de fatuéré, de le dresser contre Dieu, d'arriver l'homme se révolte. Dans la Bible, on a le moment où l'homme commence à construire une tour et Dieu dit « Arrêtons, autrement il deviendra mon rival. » Je crois qu'il faut, dès le point de départ, au point de vue philosophique, comprendre que le fatuéré est quelque chose de très grand, très important, parce que c'est la réalisation, tandis que jusque-là, on restait dans notre petit monde, l'intelligence, l'amour. On prend un droit sur l'autre, sur la matière, d'abord la matière sur l'eau, sur l'air, sur le feu. Il y a quatre droits différents et qui sont par où l'homme étend son autonomie. Son autonomie implique d'abord sa domination. Il faut qu'il arrive à dominer pour être autonome. Dominer la matière, dominer l'eau, dominer l'air, dominer le feu. Le fatuéré montre les quatre domaines par où l'homme domine l'univers et peut dominer l'univers. Il peut dominer l'univers par là, et la tentation alors dominant l'univers, c'est d'être comme les dieux, comme Dieu. Vous voyez, le moment où le fatuéré humain, poussé à l'extrême, devient rival du Créateur. Et rejoint la possibilité que l'homme a, par le point de vue de l'intelligence, aussi de se poser comme rival de Dieu. Mais voyez, la tentation est beaucoup moins grande par le point de vue intellectuel. On est rival de Dieu. Voyez la philosophie de Nietzsche, la philosophie de Hegel. Nietzsche rival parce qu'il lit l'intelligence et l'art, et l'homme devient rival de Dieu. Et Hegel, l'homme devient non pas rival de Dieu, mais il devient Dieu. Puisque Hegel se sert de ce que Aristote arrive à affirmer comme le propre de Dieu, c'est le nous, le noésis, noéseos, la pensée de la pensée. Hegel se sert de la pensée de la pensée comme le point de départ de la philosophie. Donc, comme ce qui est le propre de Dieu. Par mon intelligence, je puis me considérer comme Dieu. Vous voyez, Hegel confond le point de vue du mode propre à l'intelligence divine, il l'identifie à l'intelligence. Si je suis intelligent, je suis noésis, noéséos, la pensée de la pensée. Parce qu'il confond le mode propre de l'intelligence divine à la ratio intellectus. C'est très subtil, mais c'est la confusion fondamentale de Hegel. Alors, c'est vrai, par l'intelligence, je peux nier Dieu, mais je peux nier le Créateur par le facere. Vous voyez, le point où Dieu intervient directement, c'est la création de l'âme. Tant qu'on regarde la création de l'âme, Dieu est présent. Si on nie l'âme, on peut arriver à chercher de réaliser un homme d'une autre manière que ce que Dieu nous a dit de le faire, de le réaliser. Ceux qui croient en Dieu comprennent qu'on ne peut pas modifier. Mais ceux qui ne croient pas en Dieu, la grande victoire actuellement, c'est de pouvoir dominer la vie par le point de vue, non pas de faire que la procréation se fait à deux, on n'est plus tout seul, mais se faire seul. Que c'est là où on touche la révolte. Il y a Hegel d'un côté et puis le facere. Le facere qui va jusqu'à vouloir réaliser la procréation à la manière humaine. C'est toujours le facere qui devient rival de Dieu. Parce que vouloir que l'intelligence soit rivale de Dieu, c'est confondre la logique et la métaphysique. La logique est propre à l'homme. La métaphysique s'ouvre sur Dieu. Alors, on arrête cette ouverture sur Dieu par la logique. C'est très subtil. Et c'est bien ce qui existe dans la philosophie hegelienne. La philosophie hegelienne est une philosophie qui se passe de Dieu, ou plus exactement, qui enferme Dieu dans l'intelligence de l'homme. Dieu est captif de l'intelligence de l'homme. Alors, ça, au point de vue philosophique, Dieu est captif. Au point de vue du facere, le facere sur la vie, c'est la procréation. Et on veut arriver à pouvoir réaliser la vie, la procréation, par le facere humain. Je crois que ça c'est très important, de comprendre que le facere met l'homme constamment possibilité d'être rival de Dieu, possibilité de construire le temple qui reconnaît la grandeur de Dieu et la soumission de l'homme à l'égard de Dieu. Cette question de David, hein. Dieu n'a pas de maison et moi j'ai une maison. C'est justement l'interrogation du facere. Je me suis construit une maison et Dieu n'a pas de maison. Je prends les premières adorations, c'est marcher toujours après auprès d'une pierre, une stèle, et à partir de là, on adore Dieu. Donc on ne fait rien pour Dieu. On ne fait pas de maison pour Dieu. Or, la maison abrite l'homme, et on n'a rien fait, d'où construction du temple. Et la construction du temple, c'est l'œuvre architecturale dans ce qu'elle a de plus grand. Pour nous, l'œuvre la plus grande architecturale, c'est la construction d'une cathédrale. Pourquoi Chartres aurait voulu être prise pour être la maison de l'art? Il y a un moment où il y a une grosse discussion là-dessus. La maison de l'art. L'homme ne veut plus que ce soit un chef-d'œuvre pour Dieu, la maison pour Dieu, mais que ce soit tout simplement à la gloire de l'homme. C'est extrêmement important de comprendre que toutes les tentations d'être comme Dieu se trouvent réalisées dans l'œuvre d'art. Et ça fait comprendre l'importance du facere pour l'homme. Puisque c'est par là qu'il est comme Dieu. Vous voyez, je vous disais, la tentation est double. Nous avons la philosophie hegélienne. Et la philosophie hegélienne confond le facere intellectuel qui est la logique. La logique, c'est le facere intellectuel et l'intelligence. Et le facere à l'égard de la vie, c'est au sommet la procréation. Donc on voit les deux rivalités à l'égard de Dieu. L'un au niveau de l'intelligence, l'autre au niveau de la vie. Et tous les deux sont rivales de Dieu. On n'a plus besoin de Dieu. Jusque-là, on disait Dieu, créateur de l'âme, et donc j'avais besoin de Dieu, puisque l'âme, c'était quand même quelque chose d'essentiel pour l'homme. Mais si vous supprimez l'âme, vous pouvez arriver à la procréation sans Dieu. La bonne preuve, c'est que vous n'avez plus besoin de la dualité pour la procréation, mais vous pouvez la réaliser uniquement par l'homme. C'est au fond cette recherche d'être rival de Dieu. Elle est satanique. Hein, l'homme n'est pas méchant, mais l'homme conduit par le démon veut être rival de Dieu. C'est le démon qui premièrement n'a pas voulu obéir parce qu'il était comme Dieu. Pour obéir, il faut accepter que quelqu'un soit avant nous. C'est pour ça que c'est si difficile d'obéir. Il faut accepter que quelqu'un soit avant nous, qu'il soit chef, qui nous commande. Et fondamentalement, l'homme veut être son propre chef. Alors les deux domaines où il reconnaît quelqu'un avant, c'est dans le domaine métaphysique et dans le domaine artistique. Et dans le domaine artistique appliqué à la vie. Pas le domaine artistique simplement, la construction, mais appliqué à la vie. Alors, nous avons la possibilité par le fait chéré d'être rival de Dieu. Je crois que ça, c'est tout de suite ce qui montre la valeur tout à fait particulière du fait chéré. Il est rival de Dieu, rival de la métaphysique. Il peut mettre l'homme dans son autonomie parfaite. Le fatuéré est quelque chose qui permet à l'homme de dominer l'autre. Alors, prenez l'autre, la matière, l'autre, l'eau, l'air, le feu. Puisque l'autre est donné en premier lieu dans la matière, l'autre en second lieu est donné par l'eau. Et c'est pour ça, quand on est auprès de l'océan, Nietzsche dit ça, on dit Dieu. C'est vrai, l'eau, l'océan, est quelque chose que l'homme ne peut pas faire. Donc c'est l'autre, dans le sens très fort. Ce qu'il ne peut pas faire, c'est l'air. Dans les tornades violentes, dans les orages, je crois qu'il faut prendre le point de vue du fatuéré dans son origine tout à fait première. L'homme réalise quelque chose. L'homme réalise quelque chose toujours en empruntant quelque chose qui est avant. Il ne fait pas à partir de rien. Il fait à partir d'une matière existante. Et la matière existante permet à son fatuéré d'avoir son réalisme, son caractère propre. Autre chose est faire à partir de la matière, à partir de l'eau, à partir de l'air, à partir du feu. Vous avez donc quatre fatuérés. Alors, on pourrait mettre le cinquième, qui est la lumière. Parce qu'au fond, il y a ça. L'homme désire dominer la lumière, faire qu'il n'y ait plus de distinction entre la nuit et le jour. Et faire un jour éternel, l'habitation d'éternité, par le fatuéré. Donc, on touche quelque chose d'extrêmement profond dans le cœur de l'homme quand on touche au fatuéré. Et d'où l'importance de développer le fatuéré, de le développer intellectuellement, la logique, de le développer matériellement, le point de vue du fatuéré sur la matière. On pourrait faire développer le fatuéré sur le feu aussi. Alors à ce moment-là, l'art culinaire domine le feu, on se sert du feu. Ce fatuéré exprime le pouvoir de l'homme, la domination de l'homme. L'homme domine. L'univers est pour lui. Dieu l'a créé pour lui. Dieu a créé les quatre éléments pour l'homme. Donc, ne pas s'en servir, c'est oublier la bonté de Dieu. La bonté de Dieu, c'est de nous permettre de transformer ces quatre éléments. Et de pouvoir par là réaliser quelque chose qui soit à la dimension de l'homme. Qui soit à la dimension de l'homme. Quelque chose qui soit pour l'homme. Alors, la tentation, c'est de déborder ce pour l'homme et de faire quelque chose qui soit rival de la création.